Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie.
Et ben voilà les amis, c'est reparti pour un tour. Hein. Aujourd'hui, Radio Monaco accueille Jungle Fight, la seule émission qui parle d'action, de prévention et de lutte contre le sida, les amis. Et c'est la 51e.
Eh ouais. 51e,
ça fait 50 fois qu'on se voit. Ce soir, dans les studios de Radio Monaco, Hervé Esba, coordinateur à Fighters Monaco. Salut mon petit Hervé.
Bonjour Malher, bonjour tout le
la
monde.
La princesse arrive, tu veux dire?
Elle est à l'association, donc elle est retenue avec des affiliés. Ils sont en train de discuter. Elle est passée à l'accueil comme elle le fait régulièrement. Donc,
Elle arrive. C'est juste, et pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est juste au-dessus.
Il y a une rue à traverser.
Ouais. Ah, avec quelques escaliers à descendre. Ah, oui. Et puis elle est avec Madame Barca qui a des talents.
Ah, Madame Barca, oulala, ça va être long alors. Il faut la déplacer. Franck Herman, journaliste. Salut Franck, ça va bien?
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Ce que je disais, regardez cette tenue magnifique. On dirait un vieux.
Mafioso.
Je voulais pas dire ça, moi. Un vieil aristo, je voulais dire un peu déglingué, quoi.
J'assume.
Voilà, c'est vrai qu'il se lève tôt le matin. Non. Et bien sûr, Bruno Taillant. Salut, mon cher Bruno.
Bonsoir,
le tubib de Fighted Monaco et les fameux élèves du lycée technique hôtelier. Vous êtes là, les amis?
Ouais,
ils sont pas tous là, tout le monde n'est pas arrivé encore.
Si, ils sont à côté.
C'est l'inventeur de la trithérapie qui lance un nouveau traitement.
C'est Gilead qui va lancer une nouvelle pilule en France dans les mois qui viennent. Ça s'appelle Genvoya. Ne me demandez pas comment ils créent les noms des médicaments. Hein. Ça sort des Scrabble en général.
Des noms de Twingo. Ouais, de
une
voiture.
Pilule par jour. On rappelle quand même que Gilead avait lancé la Tripla en 2007. Alors l'autorisation de mise sur le marché a été octroyée par l'Union européenne au mois de novembre dernier. Le but, ce serait de réduire les effets secondaires et la toxicité de certains des médicaments.
Et dis-moi, mon cher Bruno, je te sens dubitatif.
Ouais, je ne sais pas si notre rôle, je ne sais pas si quel lobby est passé par là, je ne sais pas si notre rôle de vendre des produits. Genvoya, ce n'est pas du tout un médicament révolutionnaire. Et ensuite, Gilead n'a pas été l'inventeur de la trithérapie. Gilead a été simplement le premier laboratoire à mettre sur pied une trithérapie en un comprimé.
Voilà.
Parce que l'inventeur de la trithérapie, d'abord, il n'y en a pas. Et les premières trithérapies sont arrivées en 1996. Ça fait bien longtemps que les trithérapies existent. Et même, il y a un médicament avant les antiprotéases qui s'appelle le Trizivir, qui est arrivé bien longtemps avant. Donc voilà, Genvoya ne va rien révolutionner.
Ouais.
Et actuellement, ça reste pas le traitement de référence dans la prise en charge. Et ensuite, quant à dire qu'il n'y a pas de toxicité, on verra dans les années qui viennent ce que Genvoya va devenir. Et on a à l'heure actuelle beaucoup mieux à notre disposition.
Et ben voilà. Et comme ça, c'est dit.
En tout cas, ce qui est intéressant pour les personnes, c'est d'avoir une monoprise par jour.
Oui, mais il y en a déjà beaucoup. Et d'ailleurs, Gilead parle bête de Leviplera, le Stribil, la Tripla, a déjà dans son portefeuille, dans son pipeline, comme on dit, a déjà trois médicaments. Et en fait, Genvoya, c'est la même chose que ce qui existe déjà, sauf que c'est moins toxique, en particulier pour le rein et pour l'os. Et donc, effectivement, pour ces patients qui bénéficiaient de ces, entre guillemets, vieux médicaments, Genvoya sera sans doute une avancée. Mais il y a d'autres laboratoires qui font des trithérapies monoprises, qu'on appelle les STR, hein, Single Treatment Regime. Et voilà.
Et est-ce qu'on a un peu plus d'espoir sur la possibilité de peut-être de passer à des prises
Espacé. Il y a de plus en plus de gens qui le font, et il y a une étude à NRS là, donc une étude officielle qui va bientôt sortir et qui effectivement va sans doute montrer que chez certains patients, on va pouvoir passer à des allègements thérapeutiques, c'est-à-dire 4 jours ou 5 jours par semaine. Voilà, la puissance des médicaments actuels, notamment avec ces fameuses, ce qu'on appelle les anti-intégrases, donc des classes médicamenteuses nouvelles, qui ont une puissance très importante et surtout une durabilité de plusieurs jours une fois qu'on a pris le médicament, fait que ces allègements... Les allègements thérapeutiques, c'est au goût du jour, hein, pour des raisons, un, de coût financier, et deux, pour des raisons de toxicité. Donc on va, l'histoire est en marche et on va vers là.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée que c'est plutôt les personnes qui démarrent un traitement qui pourront être dans cet allègement thérapeutique, ou même les anciens séropositifs qui prennent des traitements depuis plus de 20 ans et plus, qui pourront peut-être aussi en bénéficier?
Ça reste une bonne question. C'est-à-dire, le problème, c'est que ce virus, qui est un virus malin, a une mémoire. Et donc, des gens qui ont eu une histoire clinique très longue ont archivé de multiples incidents ou accidents dans leur histoire, et notamment des résistances. Et donc, effectivement, ces allègements thérapeutiques qui sont souhaités par les médecins, par les patients et puis par la société, encore une fois, pour des raisons de coût et de toxicité, ne peuvent se faire que chez des gens qui sont dans des conditions favorables virales, c'est-à-dire des virus qui restent sensibles à au moins deux médicaments sur trois. Et non seulement on va vers des allègements thérapeutiques, et ce qu'on pensait impossible, c'est-à-dire ces fameuses trithérapies, on a maintenant beaucoup d'études en cours vers des bithérapies, voire des monothérapies. C'est-à-dire on revient, vu la puissance des médicaments, on revient vers des traitements simplifiés ou allégés, toujours pour des problèmes de coûts, de toxicité. Donc, il faut pas penser que ça bouge pas. Ça bouge. Faut pas toujours parler du vaccin qui, pour l'instant, est une chimère. Mais ça bouge. Les injectables vont arriver dans pas longtemps. Bon, ça a été reculé un petit peu, mais dès 2017, on aura sans doute les injectables. Donc ça sera quand même aussi une avancée pour les patients. Il y a des progrès dans la prévention, dans la PrEP. Il y a beaucoup de progrès. Et effectivement.
Ça, c'est bien. Ça, c'est, hein, ça fait.
Non, mais j'allais pas dire. C'est-à-dire que ceux qui sont contaminés actuellement, je vais pas dire que c'est une chance pour eux. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est vrai que la contamination actuelle des patients, dont les nouveaux patients séropositifs, ont quand même énormément de chances par rapport à la prise en charge sur des médicaments de plus en plus puissants, de moins en moins toxiques et de plus en plus simples à prendre. C'est pas pour ça qu'il faut se contaminer, bien sûr.
On ne meurt plus du sida quand on est séropositif?
Au jour d'aujourd'hui, si on fait ce qu'il faut, on meurt plus du sida.
D'accord.
Sauf que, comme on l'a déjà dit, puisque c'est la 51e émission, malheureusement, les gens meurent plus du sida. Les gens, ils meurent de cancer, les gens, ils meurent de cirrhose, les gens, ils meurent de tout ce qui est lié au sida. Et donc, le sida, c'est une modification de comportement. Il y a la trithérapie, mais il y a des modifications comportementales.
On accueille Marco du lycée technique hôtelier. Salut Marco.
Vous venez tout juste de parler du PrEP, mais en quoi ça consiste?
Du quoi? Du?
Du PrEP.
Mais il sait pas ce que c'est.
Le PrEP, pardon, c'est...
Tu n'as pas écouté, Malherbe.
Mais si, j'écoute tout, ouais.
Ben alors, à toi la parole, Malherbe, vas-y, c'est quoi la PrEP?
Alors, le PrEP, c'est le... Donc, c'est ce qui se passe avant, quoi.
Voilà, c'est ce qui se passe avant.
Ouais.
La PrEP, ça fait partie de ce qu'on appelle la prévention combinée ou la prévention élargie, c'est-à-dire que ça rentre dans le cadre de la prévention au même titre que les conseils ou que le préservatif. C'est-à-dire c'est un traitement préventif, c'est un traitement qui va se situer avant même la prise de risque. Or, la PrEP, c'est pas donné à tout le monde et n'importe comment. Il y a des critères extrêmement précis. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, dans 90% des cas, la PrEP va être utilisée par des patients homosexuels, puisque c'est ceux qui rentrent actuellement dans les critères et qui ont classiquement le plus de conduite à risque. C'est-à-dire un patient qui a de multipartenaires, notamment, ou qui a fait des infections sexuellement transmissibles dans les mois précédents et qui va potentiellement à l'occasion d'un week-end ou de vacances, avoir des rapports à risque non protégés, bien qu'on conseille lors de la PrEP à ces gens-là d'avoir des rapports protégés, bien sûr, va bénéficier d'un traitement préventif. Ce traitement, donc, c'est le fameux traitement de Gilead, et c'est le seul au jour d'aujourd'hui qui soit conseillé et autorisé, ça s'appelle le Truvada. Et il y a deux façons de le prendre, soit de le prendre en continu, sur plusieurs mois, si la conduite à risque perdure, soit de le prendre au one-shot, au coup par coup.
C'est cher, hein. C'est pas remboursé.
Si, aujourd'hui, c'est remboursé. C'est de l'ordre de 550 euros par mois pour une boîte, pour un traitement de mois.
C'est énorme.
Et c'est pris en charge par les caisses de sécurité sociale, à condition de rentrer dans des critères.
C'est ça.
Et effectivement, normalement, une PrEP bien prise évite toute contamination du VIH, mais n'empêche pas, malheureusement, la contamination d'autres infections sexuellement transmissibles qui potentiellement peuvent être aussi graves. Je rappelle que si on meurt plus du VIH, comme on l'a dit aujourd'hui, on meurt encore beaucoup de complications de l'hépatite C, on meurt encore beaucoup de complications de l'hépatite B. Il y a des complications du papillomavirus, cancer de la gorge, cancer de l'anus, cancer du col de l'utérin. Il y a des problèmes avec les chlamydiés, de stérilité et autres. Donc, c'est pas rien quand même tout ça. Mais effectivement, ça fait partie de l'arsenal préventif. Et effectivement, dans certaines situations, ça doit être proposé. Et de toute façon, quand un patient, au jour d'aujourd'hui, rentre dans les critères de PrEP, quelles que soient les croyances ou quelle que soit la volonté des médecins, on doit accéder à cette demande, puisqu'il est hors de question de priver un patient d'une PrEP si celui le désire et si celui-ci rentre dans des critères. Mais c'est des critères très stricts, hein, c'est pas donné à tout le monde.
Marco, tu parles du sida, toi, avec tes potes au lycée?
On en parle, mais bon...
Pas tout le temps, quand même.
Voilà.
Ouais. Vous parlez de capote ou pas?
Jamais.
Non. Non, ben voilà. Vous vous rappelez pas qu'il
Il parle
faut...
du sida,
non.
Mais jamais de capote. Ce serait mieux l'inverse, Marco. L'impression que c'est une vieille maladie, quoi, le sida. Hein. Va falloir tout recommencer à zéro, petit.
On continue.
Ah ben, il faut jusqu'à la centième. Hein. Ah ouais. Marco, t'as une autre question? Ouais.
Oui, c'était juste pour savoir si n'importe quel médecin pouvait le prescrire.
Non.
Non?
Au jour d'aujourd'hui, d'abord, nous on a essayé, mais Monaco n'est pas autorisé, donc pour des raisons qui nous échappent, mais les caisses françaises refusent pour l'instant de refuser. Bon, ça sera trop compliqué à modifier, donc faut attendre un peu. Après, tout médecin spécialiste dans la prise en charge du VIH peut prescrire la PrEP. Voilà. Mais ceci dit, au jour d'aujourd'hui, il y a un centre, pour les gens de la région, il y a un centre spécifique qui est dirigé par le docteur Eric Cua, qui est un médecin de qualité, à l'hôpital de Larcher, et qui effectivement reçoit les gens. C'est compliqué, la PrEP. Faut pas penser qu'on y va, on fait une ordonnance, on prend la PrEP, on s'en va et on va faire la fête. La PrEP, ça nécessite un accompagnement, ça nécessite une consultation assez prolongée, une discussion sur la prise de risque, une information sur les risques éventuels. Ça nécessite un bilan, s'assurer d'abord que les gens sont bien négatifs par rapport au sida, et une fois qu'on a fait tout ça, on prescrit la PrEP, et après il y a des contrôles très réguliers. Donc c'est quelque chose qui, pour le moment, comme c'est remboursé, c'est pris en charge par la communauté, c'est quelque chose qui est très encadré et qui est très surveillé. Parce que il faut pas oublier que c'est des sujets sains, qui vont prendre des médicaments potentiellement dangereux, potentiellement source de toxicité, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, mais encore une fois, ça fait partie de l'arsenal, au même titre que le préservatif et le reste, donc il faut savoir l'utiliser, mais ça se fait pas n'importe comment. Hein.
Jungle Fight sur Radio Monaco, avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Ouais, toujours en direct sur Radio Monaco, les amis, il faut quand même vous avertir qu'il y a un très beau concert à la Salle des Étoiles, c'est à Monte Carlo, c'est le 16 juillet, avec que des artistes mondiaux, mais surtout français. Très connu, François Feldman, Lio, Émile Image, Sabrina,
tout en est
Boys. Patrick Hernandez, Cookie Diggler, début de soirée, Julie Pietri, tout ça.
C'était déjà là.
Ça va être cool.
C'était un vieil animateur déjà.
J'étais déjà vieux, ouais. Mais j'ai tout le temps vieux. Mais c'était rire. D'ailleurs, on fera un petit blind test tout à l'heure pour savoir, pour vous remémorer un peu les morceaux de cette époque-là, n'est-ce pas, les amis? On accueille Lorraine. Okay. Elle est là, Lorraine. Ça va, Lorraine? Tu vas bien? Mais oui. Qu'est-ce que tu veux savoir?
Alors, dans un article du Figaro Santé de 2013, on parle de 30 000 Français séropositifs qui l'ignorent. Est-ce que depuis les tests rapides, il y en a moins? Ou est-ce que rien n'a changé?
Oui. Oh, bah, il y en aura toujours. De toute façon, des gens qui ne veulent pas se...
Hein? Je pense que c'est encore trop tôt pour dire s'il y en a moins. Mais en tout cas, les tests rapides, s'ils sont faits dans les publics cibles, permettent de déceler des personnes qui ignoraient leur séropositivité. Les publics cibles, c'est les publics qui sont les plus... qui risquent d'être contaminés par le virus. Donc, dans ces publics-là, certainement que ça fait avancer. Après, nous, à Monaco, nous faisons le test rapide avec le test InnoCity. C'est l'occasion, justement, de dire que le prochain sera le samedi 25 juin.
Le 25 juin, juste avant de partir
Place
en vacances.
Place de l'Arboto.
C'est bien. Ouais. T'as un bon petit résultat pour partir en vacances, tu vois?
Là, si nous n'avons pas découvert de séropositivité, il y a toujours un intérêt à faire le test. D'abord parce qu'on connaît son statut sérologique. Et puis, ça a aussi une valeur pédagogique de se dire finalement où j'en suis avec le VIH. Est-ce que j'ai besoin de me protéger ou pas?
C'est une question très importante et c'est une très bonne question parce que ces 30 000 à 50 000 séropositifs qui s'ignorent, et le chiffre reste toujours identique au jour d'aujourd'hui, qui sont responsables de 80 responsables entre guillemets, parce qu'ils s'ignorent, ils sont juste responsables de pas se faire dépister, qui sont responsables de plus de 80% des contaminations. Donc c'est vraiment sur ce noyau qui est actuellement non atteignable qu'il faut travailler. Et effectivement, il faut faire des dépistages élargis. Mais maintenant, repartir, parce que l'histoire, c'est un éternel recommencement. Alors qu'on a dit qu'avant, il fallait pas stigmatiser les gens, il fallait pas de dépistage ciblé. Il faut vraiment revenir à des dépistages ciblés, et notamment à la communauté homosexuelle. Il faut pas la stigmatiser, mais c'est la réalité des faits au jour d'aujourd'hui. Il faut revenir sur ces dépistages et... Les tests rapides font partie d'un outil comme d'autres.
Dis-moi, les symptômes du VIH, on peut être en très bonne santé et être contaminé?
Oui, c'est le problème, c'est-à-dire que la plupart du temps, la contamination, elle est soit asymptomatique, c'est-à-dire on est contaminé sans s'en rendre compte, soit le plus souvent, dans les suites de la prise de risque, on a un épisode infectieux banal, comme une grippe, c'est-à-dire c'est rien du tout, un petit peu de fièvre, un peu de douleur articulaire, une petite éruption, des courbatures, on prend un peu de paracétamol et puis ça passe, on a oublié qu'on a fait le con.
Et ça pourrait être les premiers symptômes
C'est les premiers symptômes de la contamination. Et ensuite, le virus, il va se mettre en sommeil dans notre organisme pendant de nombreuses années. Et en fait, c'est à cette période-là, la période de contamination, bien sûr, puis après cette période de sommeil où on est contaminant. Et c'est là où il faut se faire dépister. Voilà. On en parlait tout à l'heure, on a maintenant des traitements extrêmement efficaces, extrêmement simples, extrêmement bien supportés. Donc, il faut se faire dépister. Il faut pas avoir peur d'être découvert séropositif. Ça a un intérêt pour soi-même parce qu'on peut se soigner, et ça a intérêt pour toute la communauté, on protège les autres. Et donc c'est un acte courageux, un acte il faut se faire dépister.
Voilà, Lorraine.
Est-ce que vous avez déjà eu des cas de personnes qui ont un autotest positif et qui se rendent au CHPG?
Tout ce qui a été fait, enfin oui, autotest, pas test rapide, pardon, non, au jour d'aujourd'hui, non. Autotest, non.
Et il y en a en vente à Monaco.
Ouais,
dans certaines pharmacies, hein, pas beaucoup, mais dans quelques pharmacies, on trouve l'autotest.
Il n'est pas donné, c'est quoi? C'est 25, 30 euros?
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ouais, pas vrai. C'est trop tôt pour savoir l'apport des autotests dans le dépistage et la prévention. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu énormément d'autotests vendus, à peu près 100 000. Après le retour, pour l'instant, on l'a pas. Ce qui est sûr, c'est que, on espère, mais on n'en est pas sûr, c'est que les gens qui achètent les autotests, soit pas pour, c'est comme l'alcotest, pour s'amuser ou pour, mais que, qui servent vraiment à des communautés qui ne sont pas atteignables par les dépistages classiques et par les tests de dépistage rapide. C'est ça. Sincèrement, rien ne vaut un dépistage entouré par un médecin ou entouré par des gens qui ont l'habitude. Parce que faire un test, c'est bien, mais il y a tout ce qui est autour. Faire un test tout seul dans un coin, ça sert à rien. Si c'est pour recommencer la prise de risque, 8 jours après, refaire un test en disant ouf, c'est bon, j'ai eu de la chance, je suis toujours pas positif. En général, on devrait faire un autotest parce que tout le monde fait le couillon, hein, ça arrive à tout le monde de prendre des risques, mais faire un autotest et après réfléchir et puis modifier son comportement de façon à ce que le risque n'apparaisse plus. Bon, enfin, ça, c'est un vœu pieux. Hein, mais pour l'instant, on n'a pas de retour sur les retombées de ces autotests qui sont un outil supplémentaire.
Jungle Fight sur Radio Monaco avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie.
Bonsoir les amis, Radio Monaco accueille Jungle Fight, tout va bien. On est en pleine forme ce soir, dis donc, on est content de se retrouver à chaque fois, même pour toujours, parler de sujets un peu, bon, c'est bien, c'est le sida, mais bon.
On est content de te voir, Malher.
Oui, c'est vrai, ça me fait plaisir, Bah, fais des photos, parce que... Voilà, c'est bien.
Faut se dépêcher.
Je voulais revenir, mon cher Franck. Oui. Ils sont complètement fous à Barcelone. Qu'est-ce qu'ils font?
Eh bien, écoutez, c'est un scandale qui est sorti dans la presse espagnole et dans la presse hispanophone du monde entier. Mmh. À Barcelone, la nouvelle mode, c'est la roulette russe du VIH. Alors, je vous explique. Voilà. Ça touche surtout les catégories, les nouvelles générations, 15-25 ans, qui, quand ils s'ennuient un peu au lit, eh bien, veulent trouver de nouvelles sensations, et notamment expérimenter le risque. Alors, le but du jeu, c'est de réunir un groupe de personnes, avec à l'intérieur une personne infectée. On fait sa petite affaire entre soi, entre plusieurs, et on vérifie après pour savoir, et on a peur. Et voilà, c'est la nouvelle mode à Barcelone. Ça a été dénoncé, effectivement.
Ils sont fous. Mais ça m'étonne pas.
Non, ça a été dénoncé par mal d'instituts également, puisque certains endroits qui sont installés pour ça, bon,
c'est quoi, c'est des bars,
des endroits de libertinage, tout simplement, à Barcelone, eh bien, proposent tout simplement des médicaments, des pilules, qui sont interdites sur le territoire espagnol.
Oui.
Et où on dit, voilà, si vous prenez, vous êtes après rien.
Ouais, on revient encore au Truvada, là.
Oui, mais moi, ce truc-là, c'est...
T'as entendu parler, Hervé?
Oui, bien sûr, mais c'est des choses, un peu, je trouve, des effets de presse, ou je sais pas comment dire, pour faire parler de soi. C'est pas nouveau, ça. On l'a déjà entendu longtemps, en 30 ans d'épidémie, où... Comme quoi il y aurait des gens qui s'amuseraient à jouer à la roue roulette russe. Peut-être que ça existe, mais j'ai du mal à le croire.
Mais c'est à Barcelone,
C'est à Barcelone, mais ça a été dit ailleurs, ça a été dit en France, ça a été dit dans
les zones urbaines, selon toi.
Ouais, la sensation d'interdit.
Un petit peu, je crois que c'est un petit peu encore faire peur. L'impression que les gens qui attrapent le sida, ils ont tous des comportements complètement délirants, que ils sont irresponsables. Il y a quelque chose qui m'énerve dans ces propos-là.
Ah bah c'est malsain. Hein.
Oui, c'est malsain. Alors, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui font ça, mais chez les jeunes, qu'ils s'amusent sans se protéger, certainement. Qu'ils n'aient pas conscience du risque, certainement.
Ouais.
Mais qu'ils aillent dans une soirée en disant, on sait qu'il y a un mec ou une nana qui est contaminée là-dedans et qu'on va peut-être se choper le VIH.
Ouais.
Il y a des inconscients, peut-être, qui le font. Mais j'ai du mal à le croire. Après, l'histoire de vendre des pilules qui, soi-disant, sauveraient...
Le plus gros problème au jour d'aujourd'hui, c'est par rapport aux réseaux sociaux, et notamment à certaines applications, où là, il y a des circulations et il y a des fêtes qui s'organisent avec des drogues festives, avec des fournisseurs de drogues festives, et que ce soit Grindr, Tinder et tous ces trucs-là, où là, ça pose problème. Parce que les drogues festives sont, au jour d'aujourd'hui, une des sources de contamination pour le VIH et pour le VHC, surtout pour l'hépatite C, notamment. Ça pose problème. Parce que ça, c'est la réalité.
C'est quoi? Lesquelles?
Toutes les deux.
C'est des drogues désinhibantes.
Voilà, les amphétamines, des choses beaucoup plus violentes que ça, qui entraînent des effets hallucinogènes ou des effets sédatifs ou tout ce que vous voulez, et qui participent à la pratique à risque associée à l'alcool. Et il y a des études très bien montées et très bien structurées, notamment dans les pays anglo-saxons, et qui montrent que, notamment à Londres et en Angleterre, ça pose un problème énorme. Ça, moi, moi je suis un peu comme Hervé, je pense que c'est peut-être des effets d'annonce. En tout cas, je ne pense pas que ça soit un gros problème. Toujours est-il quand même qu'il faut savoir que le Portugal et l'Espagne, c'est les deux pays européens où le nombre de contaminations est la plus importante. Donc ils veulent peut-être rester en tête, je ne sais pas, avec ces âneries.
Ouais, ouais, c'est sordide, c'est bulgare, c'est épouvantable ça. D'ailleurs, je voulais revenir, Bruno, la différence, parce que c'est des termes qui sont fréquemment confondus. C'est entre le VIH et le sida. Le VIH, c'est quand tu développes la maladie, et le sida, c'est quand tu as attrapé la maladie,
non,
c'est ça?
Le sida, c'est le nom initial, c'est le syndrome d'immunodépression acquis, c'est-à-dire c'est la maladie. Quand on a le sida, on a la maladie, c'est-à-dire qu'on a une immunité qui est faible et on a des symptômes, c'est-à-dire des complications, soit cancéreuses, soit des complications infectieuses. Le VIH, c'est le virus qui transmet la maladie.
Mais
on peut être porteur du virus. Dieu merci, la plupart des gens au jour d'aujourd'hui sont porteurs du virus et non malades. Ben donc ils sont porteurs du VIH, mais ils n'ont pas le sida. Et les gens, ils font un amalgame, mais le but des dépistages, c'est justement d'être porteur du virus, mais de ne jamais atteindre cette étape, qui est la dernière étape, qui est l'étape du sida, où là, les complications peuvent s'enchaîner, malgré la puissance des traitements actuels.
Et qui c'est qui vient d'arriver? C'est la princesse Stéphanie. Bonsoir Stéphanie, ça va bien?
Ça va bien, Malher, merci.
Tout va bien, pas de problème, sinon on est là, on répond à tout.
Mais okay. J'étais avec mes affiliés.
Ils vous ont gardé longtemps, hein?
Mais mais bon, on a bien rigolé. Voilà.
C'est quoi les questions de toujours?
Dès qu'Hervé est parti, on a encore plus rigolé.
Ils sont sortis.
Le prof qui quitte la classe.
Stéphanie, c'est quoi les questions qui reviennent souvent avec les affiliés?
C'est pas des questions. Voilà. Ouais. Mes moments avec les affiliés, c'est des moments justement où on rigole et. Et même si on parle de la maladie, c'est de manière, c'est en confiance et c'est comme, on est vraiment entre amis, en famille, et voilà. On peut passer de moments où on rigole de choses qui n'ont rien à voir et puis après, on parle du bienfait que l'association leur a fait, que la maison de vie leur fait, que ça a changé leur vie, leur manière de se voir eux-mêmes et de voir les autres et de voir le monde. Et puis après, on repart dans de la rigolade, et puis voilà.
C'est marrant parce que il y a toujours les quelques secondes quand vous arrivez, c'est la princesse arrive. Il y a comme une impression, ils se disent, il faut qu'on fasse attention, puis après, ils oublient complètement.
Ah, mais moi, je suis pareil, dès que je vois Stéphanie arriver.
T'es impressionné.
Ils ont dit, oh là, qu'est-ce que je fais? Pourvu que je ne sors pas une question toute pourrie.
Ça, c'est impossible.
Ouais, j'en ai plein, Malher, si tu veux.
Des questions pourries? Ça y est, on est habitués. Alors, nous accueillons Jessica, qui est là du lycée technique. Bonsoir Jessica.
Bonsoir Jessica, mais c'est pas Jessica qui commence à parler.
Oui, c'est...
c'est Assina.
Assina, qui est à l'origine de One Kiss, One Fight. Salut
Assina. Bonsoir.
Assina Amara, graphiste et qui a conçu avec nous la campagne One Kiss, One Fight.
Et c'était une bonne idée, moi j'ai trouvé ça vachement
bien. Qu'on nous a copié d'ailleurs.
C'est vrai?
Oui, tout de suite, oui, le temps qu'on la sorte, il y a eu une campagne qui était... Oui.
Bravo.
Elle s'appelait d'ailleurs.
Bon, on est toujours
copiés. Oui, c'était basé sur le bisou,
l'histoire du bisou aussi.
J'ai vu.
Bon, on a toujours un temps d'avance.
Ça prouve que c'était une bonne idée.
Oui.
Ah ouais. C'est vrai. Dis-moi, Assina, il y a eu combien de vues sur le site?
C'est-à-dire que c'est la fin quand même.
C'est
fini.
Fini. Tu te souviens qu'on a fêté ça au Stars and Bar?
Et tu es venu.
Mais je suis là tout le temps.
Et tu as refait un selfie.
Mais tout le temps, j'arrête pas, même chez moi, tout seul. Un selfie.
Mais ça, on ne veut pas les voir.
Non, vaut mieux pas.
On ne dira pas combien de fois ils ont été vus, ceux de Malher.
Non, vaut mieux pas.
Surtout pas par rapport à vous.
Mais c'est Malher qui les regarde.
Mais non, faut pas, je vais t'embêter après.
En revanche, celui de la princesse a été vu 31 420 fois.
Ah ouais, quand même.
Bravo.
Ouais.
Bon, c'est pas la peine de dire que c'est celui qui a été le plus vu de la campagne.
Voilà, c'est ça.
On s'en doute.
Mais c'est bien de communiquer avec les nouvelles technologies, le numérique.
Absolument.
Il faut continuer là-dessus.
Oui, et puis c'est très important de fonctionner avec les médias actuels et les réseaux sociaux. Les campagnes numériques prennent de plus en plus d'importance dans les campagnes actuellement.
Ben oui, il va falloir s'y mettre au numérique, Stéphanie. Facebook, tout ça, hein.
Nous avions une chaîne dédiée à Facebook pour la campagne.
Oui, je tiens à préciser encore un petit chiffre quand même. C'est que sur l'ensemble de la campagne, il y a eu près de 100 000 vues sur l'ensemble des selfies. Et on a plus de 2 heures de montage de selfies quand même. C'est énorme.
Donc un tiers par vous.
Bon.
Pas mal, hein.
Pas mal, oui.
Et c'est quoi alors les nouvelles idées? Parce qu'il faut trouver autre chose maintenant.
On peut faire le bilan.
Ah bon, on va faire un bilan. D'accord.
Pas un bilan trop long, mais dire quelques petites choses encore.
Oui, alors déjà, on a eu énormément de participants et on les
des personnes célèbres comme la princesse Stéphanie.
C'est ça, déjà. Le premier selfie, c'était celui de la princesse. Ensuite, on a eu beaucoup d'anonymes et on a eu également beaucoup de personnalités.
Des connus, des acteurs, des chanteurs,
ah oui,
non?
Oui, des chanteurs.
Ouais, et puis avant les chanteurs, on a quand même eu deux prix Nobel.
Deux prix Nobel.
Rien, quand même,
deux prix Nobel
campagne.
De la paix.
Il y a eu Nabila et
Non.
Bon.
Il y en a eu. C'est interdit les portables en prison maintenant.
Mais t'en sais quelque chose, hein.
Non, mais on peut citer par exemple Yannick Noah, Morane, Marianne James. On a eu également Astrid Veillon, Elise Moon, Philippe Candeloro.
C'est bien, ça. Des sportifs aussi, Marianne Chelic.
Voilà, de DJ comme Steve Aoki, DJ Assad, des humoristes, Roland McDan, Tex, Didier Gustin.
Ouais.
On a eu également Jean-Luc Romero.
Alors Jean-Luc Romero, c'est un élu,
président des élus locaux contre le sida.
À Paris.
Et on a eu un acteur de série pour teenagers qui s'appelle Rodrigo Pedrera de la série Violetta.
Ah, qui c'est qui connaît Violetta? C'est pour les gamins.
C'est pour teenagers, c'est pas forcément.
C'est pour Zaza, 58 ans.
Et nous avons eu le selfie peut-être avec le plus de monde, puisqu'il y a eu un selfie qui a été fait pour le gala.
Au stade?
Le gala de Fighters Monaco au Sporting d'été, s'il te plaît.
Pas au stade. Oui. On va en parler.
Avec 900 personnes, je crois. Marc Toesca a filmé un selfie.
Le prochain.
Il y a eu les carabiniers aussi.
Ouais. Il y a eu les carabiniers.
Ouais, c'était bien,
il y a
ça.
Eu le conseil national, la mairie de Monaco.
Le lycée technique.
Le lycée technique, et justement, c'est là où...
Et avec Jessica, qui est là.
T'as vu un peu l'enchaînement que j'ai
fait? Ouais. Jessica,
merci, parce que elle était perdue.
Jessica, qu'est-ce que tu veux savoir?
Alors, c'est pas pour savoir, en fait, c'était plutôt pour donner une explication de ce que les anges gardiens ont fait.
Oui.
One Kiss, One Fight.
Les anges gardiens, faut le rappeler, vous baladez le soir dans les boîtes, tout ça,
oui,
non?
Oui, bien sûr.
Ils sont partenaires avec Fighters Monaco aussi. Mmh.
Tout à fait.
Les anges ont mené trois actions, le service après-vente, au marché de Noël et au Stars and Bar. Il faut se rappeler quand même que l'idée, elle est venue d'un ancien ange gardien, ancien même si on le reste toujours, qui a fait son stage au foyer socio-éducatif du lycée pendant le lancement de la campagne One Kiss, One Fight. On est parti sur une parodie du service après-vente des émissions en le transformant en service après-vente des anges gardiens. On a choisi les personnages qui nous paraissaient les plus en relation avec le thème de la campagne comme Rocco, Tata Suzanne ou Je suis viens plus aux soirées.
Tata Suzanne, c'était Zaza, non? Qu'elle faisait ou pas?
Oui. Elle se cache, je pense.
Salut Tata.
Et voilà, petite Tata Suzanne.
Ouais.
En plus, car c'était pendant les périodes de fêtes de Noël, et on a choisi la Mère Noël avec une voix de Père Noël.
Pas bête, ouais. Mmh. Ah ouais, c'est transgenre, ouais.
Ça change un petit peu.
Mais oui.
En tout, on a filmé 6 spots qu'on a largement diffusés sur les réseaux sociaux. On a filmé avec un smartphone et les moyens du bord, mais on a vraiment ri et pris du plaisir à faire ça, en fait. Ça nous a beaucoup plu. La campagne, on a essayé de la faire la plus originale possible.
Bon, c'est bien,
ça a marché.
C'était super.
Ah, c'était super. Et alors, on n'a pas les chiffres ici, et Assina non plus les a pas, mais je sais que celle de l'émission, là, comment tu as dit, là où il y a Tata Suzanne, il y a eu beaucoup de vues. Est-ce que vous, les anges gardiens, vous les avez passés, diffusés sur vos propres Facebook, sur vos propres...
On a essayé de le faire le plus possible, en fait, qu'on diffuse entre nous et que les autres puissent les partager aussi.
Donc
comme ça passe à un maximum et que ça touche le maximum de personnes.
Bravo les anges.
Bravo les anges. Merci Assina. Tu avais autre chose, non?
Oui, aussi par rapport à la fermeture au Stars and Bar.
Oui.
Les anges gardiens ont fait des vidéos selfies, One Kiss, One Fight, avec les clients aussi. Donc ça a permis de tous nous mettre en relation et faire réagir.
Ouais. Bah, vous ne l'avez pas fait avec Malère?
Oh, c'est un scandale, ça. Je suis resté tout seul.
Non, elle avait eu peur.
Il était au bar, il espérait.
Oui, mais elle a appelé son papa toute la soirée. Il y a un mec bizarre qui est là. Il me regarde.
Oui, c'était la soirée de clôture, début février.
Bon, faut trouver de nouvelles idées, les amis, après les selfies, hein. On va trouver d'autres trucs, ouais.
On va chercher.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie.
Eh bien, ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. L'émission Jungle Fight en direct des studios de Radio Monaco avec la princesse Stéphanie. Et tout de suite, nous accueillons au téléphone Didier Rouault, directeur de la maison de vie à Carpentras. Salut mon Didier, ça va?
Bonjour Malheur, bonjour princesse, bonjour tout le
monde. Bonjour Didier.
Ça va très très bien.
Qu'est-ce qui s'est passé à la maison de vie ces trois derniers mois? Tout va bien là-bas?
Juste avant, vous avez oublié de citer le selfie de la maison de vie.
Oui.
C'était fait par
c'est Hervé, c'est la faute d'Hervé.
Voilà, et le selfie de la mairie de Carpentras et de monsieur le maire. Mais on a une belle collection de selfies, One Kiss, One Fight. Qu'est-ce qui s'est passé à la maison de vie?
Oui, tout va bien pour toi. Oui, hélas, c'est toujours complet, je suppose. choses?
Oui. On n'a pas de news d'actualité pimpante comme Fightest Monaco. Voilà, on a plutôt du travail de quotidien et on assure auprès des personnes l'aide, le soutien dont elles ont besoin. Ça, c'est important.
Et dis-moi, est-ce que tu as toujours des nouvelles des anciens ou
Oui, on reçoit toujours soit des cartes postales, soit des mails, soit des appels téléphoniques. D'une part, des personnes qui remercient la maison de vie, qui remercient la princesse d'avoir créé ce lieu, et puis qui nous disent surtout qu'elles ont rebondi et qu'elles se sentent beaucoup mieux. Et ça, c'est hyper important.
Ah ouais, je comprends, ouais. Hervé ? Non, eh bien Hervé, il veut pas te parler aujourd'hui.
Bonjour Didier.
Il veut pas. Il fait la gueule.
Bonsoir Hervé. Je rebondis un peu parce que en début d'émission, vous parliez le docteur Bruno Taillon parlait de simplification et d'allègement thérapeutique. C'est vrai que c'est une super bonne nouvelle dans les mois et les années à venir. Mais les personnes nous disent aussi, les résidents nous disent aussi qu'elles voient leur infectiologue. Si la relation avec leur infectiologue va changer parce qu'ils vont les voir moins souvent. Très souvent, ils nous disent maintenant, je vois mon infectiologue qu'une fois par an. Ce qui une bonne nouvelle, ça veut dire que tout fonctionne, mais il restera nécessaire d'avoir des lieux d'écoute, de soutien, d'accompagnement, et aussi bien Fightest Monaco à Monaco que la Maison de Vie remplissent cette mission pleinement, parce que quand même, malgré tout, elles ont besoin d'être écoutées.
Nous avons des fois la question, est-ce que beaucoup de personnes demandent à revenir ?
Oui. Je ne sais plus les statistiques, je crois que sur l'année 2015, il y a une vingtaine de pourcents, 1 sur 5, qui est revenu à la maison de vie pour un deuxième, troisième, quatrième séjour.
Il va falloir agrandir. Hein.
Non, mais ce qui veut dire que
Stéphanie est d'accord.
La maison de vie est efficace puisque ça n'est que 20% en fait. Oui. Ça n'est pas beaucoup, donc ça veut dire que le travail que vous faites est efficace en une fois.
Pour une grande majorité, j'allais dire, une fois, ça peut suffire. Et puis d'autres personnes ont besoin de temps pour mettre en place certaines choses dans leur vie et peuvent revenir.
C'était votre souhait, vous, Walter, justement, par rapport à la maison de vie, de ne pas faire un lieu de vacances où les gens reviendraient sans raison.
Non, c'est pour ça qu'aussi qu'on fait tout sur dossier aussi, qu'on analyse chaque cas. Mais je crois que c'est normal parce qu'il y a des gens, toutes les histoires sont différentes. Il y a des gens peut-être qui étaient murés dans leur solitude depuis plus longtemps et qui ont besoin de plus de séjours à la maison de vie pour sortir de cette solitude. Et voilà, donc c'est pour ça que l'équipe de la maison de vie est vraiment au top parce qu'ils sont justement à l'écoute et que ça donne aux gens envie de revenir parce qu'ils sentent qu'ils sont pas prêts à voler de leurs propres ailes et d'assumer pleinement leur vie, quoi.
Et tout à l'heure, là, quand je passais dans la salle d'accueil où vous étiez avec les affiliés, il y avait des affiliés qui encore vous remerciaient, vous parlaient de tout ce qu'ils trouvaient d'avantageux en allant au séjour de la maison de vie.
C'est pour ça qu'on l'a fait, quoi. C'est justement pour les rebooster au niveau moral, au niveau physique, au niveau confiance en eux et confiance en la vie et de savoir qu'on est là, quoi, et qu'ils peuvent compter sur nous et que la maison de vie est là, Fightheads est là et voilà. La maison de vie a fait ses preuves, c'est nécessaire, ça marche. Donc voilà, ça continue. Hein.
Je crois que c'est ce que Didier a dit quand j'arrivais, mais les personnes vous expriment beaucoup de reconnaissance par rapport à ce que vous faites pour eux, pour la lutte.
On est bien là-bas. On est bien, même quand quand on y va, on est bien, on passe une belle journée, il fait beau, la déco, on mange bien. Tout va bien, on fait de la balançoire.
C'est la maison de vie, oui, que eux se sentent mieux. Là, je fais pas pour avoir la reconnaissance. Et comme je dis à chaque fois, c'est de voir des sourires sur leur visage et qui me disent que maintenant ils ressortent dans la rue, ils ont repris confiance en eux, ils ont envie d'aller de l'avant, ils ont des projets et c'est ça la plus belle des récompenses, c'est pas de dire bravo, vous avez bien fait de faire maison de vie, non. Ça je le sais que j'ai bien fait de...
Et tu sais,
quand je vois les sourires et que je vois justement que ça leur a permis d'avoir de nouveau confiance en la vie, c'est ça la plus belle récompense, quoi.
Eh ben voilà. Didier, tu sais qu'on est là-bas dans un mois, hein.
Oui, on vous attend.
Commence à cuisiner, hein.
Ouais. Non, pas Didier, non.
Non,
tu fais aux cuisinières.
Non, pas toi, Christelle, tu laisses tomber. Hein. Ouais, laisse faire.
Je vais faire confiance à mes cuisinières.
Bon, on sera là-bas le 16 juin, d'accord?
Avec grand plaisir, on vous accueille.
Ok, mon pépère, on t'embrasse. Salut, mon Didier.
À
dans un mois. Bonjour, Sylvie, du lycée technique.
Bonjour.
Et hôtelier.
J'ai une question.
Ouais.
Pourquoi les garçons ne sont-ils pas vaccinés contre le papillomavirus? Est-ce que cela veut dire que ce n'est qu'un virus féminin?
Faut rappeler ce que c'est le papillomavirus.
Docteur.
Allez, toi, réveille-toi, Bruno.
Moi, j'ai une réponse. C'est pourquoi les filles sont pas vaccinées contre le papillomavirus? Déjà, ça, c'est un gros problème. Parce que, en France, la vaccination contre le papillomavirus, ça couvre très peu de gens. Et effectivement, il y a des pays, et c'est une très bonne question, il y a des pays comme aux États-Unis où on commence à conseiller la vaccination également chez le garçon. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le papillomavirus, c'est un virus, ce qu'on appelle oncogène, c'est-à-dire c'est un virus qui favorise le cancer. Il y a trois grands cancers qui sont favorisés par le papillomavirus, le cancer du canal anal, le cancer du col de l'utérus et le cancer de la gorge. Puisque au jour d'aujourd'hui, le papillomavirus dépasse quasiment le tabac dans les cancers de la gorge. Et donc, cela est dû aux pratiques sexuelles. Tous les adolescents, avant leur premier rapport sexuel, qu'ils soient hommes ou femmes, devraient être vaccinés contre le papillomavirus. Et chez la femme, c'est une réalité, mais en France, c'est pas beaucoup fait. Hein. Il y a une couverture vaccinale qui est très très faible et c'est désolant.
Pourquoi ? Parce qu'on n'en parle jamais.
On ne peut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, on soit dans une période très propice à la vaccination en France. Et je pense que ça va du vaccin contre la grippe au vaccin contre un tas de virus. Et le papillomavirus fait pas partie, parce qu'il y a toujours ces histoires qui traînent sur le papillomavirus, sur des problèmes d'autisme ou sur des problèmes autres. L'hépatite B, c'est la sclérose en plaques. Le papillomavirus, c'est l'autisme et ainsi de suite.
C'est vrai ou quoi ?
Mais non, c'est, de toute façon, tout ça, c'est des conneries.
Et qu'est-ce qui fait que finalement, on ne recommande qu'aux filles? C'est parce que les femmes ont plus de risques de développer un cancer que les hommes?
De toute façon, les femmes, malheureusement, ont toujours été plus à risque de tout. Du fait de la surface de contact, la muqueuse vaginale est une muqueuse qui a une surface extrêmement importante et donc qui est extrêmement réceptrice à beaucoup de maladies, du VIH au papilloma et à d'autres virus. Donc la femme est plus à risque que l'homme, au moins deux fois plus pour certaines maladies. Voilà. Mais après, effectivement, pour l'instant, au niveau des préconisations de la Haute Autorité de Santé, les garçons ne font pas partie en France. Mais ça va arriver. Mais comme d'habitude, on a toujours du retard.
Si un garçon veut se faire vacciner aujourd'hui, ça n'est pas pris en charge
pour l'instant, ça n'est pas autorisé.
Ah, c'est même pas autorisé. C'est-à-dire qu'il n'a même pas, il ne peut pas se faire vacciner.
Non,
d'accord.
À ma connaissance, à moins que je dise des bêtises, mais je crois pas.
Vous avez de la chance, les filles.
Non, mais le problème, il est vaste parce que même en France, la plupart des jeunes filles ne sont pas vaccinées parce que, en fait, c'est même pas une décision de jeunes filles, c'est une décision de parents. Et les mères, puisque souvent les mères qui prennent les décisions dans ces cas-là, les mères ne prennent pas les bonnes décisions. Parce qu'il faut pas oublier quand même que le cancer du col de l'utérus est un cancer extrêmement fréquent et qui tue. Donc on a un vaccin, comme on a un vaccin pour l'hépatite B, le cancer du foie, c'est un cancer qui tue. On a un vaccin préventif d'un cancer. On demande toujours ce qu'on n'a pas, et quand on a, on ne l'utilise pas.
Donc, eh ben voilà.
Bon, on veut, faut se vacciner. Tout.
Oui, je sais, Altesse.
Tout.
La totale.
Méningite foudroyante.
Parce que c'est de notre responsabilité de parents. Les adolescents, ils ont du mal et ils ont du mal à décider.
Mais je pense que la question est vraiment intéressante, la question de Sylvie, parce que moi j'ai entendu un jour dans le train un homme qui disait que c'était les femmes qui transmettaient le papillomavirus.
Oui, mais
il n'y a pas que ça. Je pense qu'il peut y avoir une mauvaise interprétation des messages de prévention quand on nous dit c'est la fille qui doit se faire vacciner.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie.
Voilà, on va revenir avec ce concert des Stars 80. C'est le 16 juillet.
C'est l'original, Malher.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait?
Ah bah parce qu'il y a eu plusieurs saisons, Stars 80. Ah,
d'accord.
Avec, ils ont rajouté au fur et à mesure, Plastic Bertrand.
Il a fondu, il paraît.
Oui, bah, c'est pour ça qu'il est pas cette année.
Bah, il sera pas là, on le retrouvera pas. Par contre, on a Lio qui nous chantera.
Banana Split.
François Feldman. Alors lui, il a plein de chansons, François, hein.
Joue pas comme ça.
C'était pas mal. Émile et Images. Les démons de minuit. Sabrina.
Les jeunes, ils nous regardent. Je sais pas.
Sabrina, boys.
Est-ce qu'elle vient avec sa piscine, Sabrina?
Ouais, c'est un moment culte. Hein. Oui. Ah, tu regardes ça encore à ton âge?
Moi, j'étais tout petit.
Début de soirée, et je chante, tant qu'il vous plaît. Julie Pietri.
Eve, lève-toi.
Et Stéphanie, ils vont vous appeler sur scène. Hein. Attention. Jean-Pierre Madère.
Ah, il y en a fait plein.
Macumba.
Tana.
Les Zaza, tu dis.
Pauline Esther, Jean Schultes, La Roche Valmont, je vois pas du tout ce qu'ils chantaient.
Oui. Coco.
Ah, t'as le loup, Coco, ouais.
Demande à Zaza.
Et Patrick Coutin. J'aime regarder les filles. Voilà. Tiens, moi, je vais faire un petit blind test pour savoir si vous êtes aussi au top. On y va, les amis.
C'est le 16 juillet, au Sporting.
Oui, c'est le 16 juillet. Les réservations sont déjà en route.
Mais là, on fait un petit blind test, les amis. C'est parti. Écoutez ça. Qui c'est?
Ah. On dit qu'elle a une forme de guitare.
Oh non, c'est pas sympa ça, c'est parce qu'elle a un gros... Voilà.
Devant.
Et c'est nous qui l'avons trouvé.
Alors écoutez, ouais, c'est qui? Et surtout, c'est une reprise d'un tube de l'été des années 80.
88.
Jennifer Lopez.
Mais ouais, c'est Jennifer Lopez.
Moi, c'est Zaza qui m'a soufflé.
On the floor. Et c'était quoi, là? C'était quoi avec la petite bouteille qui s'agite? La petite bouteille jaune.
Orangina.
Et ben voilà. C'était la lambada. Et ouais. On est reparti, les amis. Le tube des années 84. Écoutez. Tu danses, Hervé?
Ah, non. Danse pas.
Ah, c'est qui? C'est les Allemands.
Scorpions.
Ils chantent pas très allemand. Hein.
Tube de l'été. Ils chantent vachement bien.
Oui, mais pas en allemand.
Ben non, ils sont pas fous. Forever Young, ça s'appelle.
Eh oui.
Tube de l'été, 1984. Bon, enfin.
Mais oui, mais je connais
chose. Stéphanie,
c'est
alors.
Scorpions, non?
Non, mais c'est pas loin, c'est Alpha Ville. Et ben voilà, Forever Young. C'est reparti, les amis. Deux ans après, il y avait ça. C'est extrait d'un film.
C'est le film Officer Gentleman.
Oui. Non, My pas du tout. Non, c'est pas, c'est
Top
pas,
Gun?
C'est pas.
Non.
Voilà Top Gun. Et bonne réponse de.
Et ça,
Stéphanie.
C'est la fille, elle avait les cheveux à la lambada noire.
De toutes les couleurs.
Oui. Ouais, ils sont tous, ça s'appelle comment? Parce qu'on l'appelle encore Top Gun aujourd'hui dans la rue.
Mais, c'est ça, ouais.
Mais comment ça s'appelait?
C'est le groupe Berlin. Take Berlin, My Breath Away. Très beau film sur les avions, justement, avec Tom Cruise. Hein.
Oui.
Et Kelly McGillis, ouais. Et puis elle chantait bien, hein. Attention les amis, on quitte les années 80, on revient là. Voilà. On est en 2006.
Oui. Un ami de Monaco.
Ouais, c'est connu. Non,
c'est l'autre.
Non, c'est pas lui. Et c'est le générique de la Starac en 2006. C'est Bob Sinclair. Et ouais les amis, Bob Sinclair. On revient à l'année 84 les amis. Ouais. Alors là ils seront ils seront donc à la salle des étoiles à Monaco le 16 juillet.
Émilie. Non. Tenue de soirée.
Comment il s'appelle? C'est des mecs d'Aix-en-Provence.
Tenue de
soirée, il a dit.
J'ai dit tenue de soirée au début.
Tenue de soirée. Ah non, c'est le début. Tenue de soirée, c'est un film.
Tenue de soirée, c'est Gérard Depardieu et Michel.
Ah ouais.
Ils sont rebaptisés ce soir.
Ouais,
c'est à peu près le même gabarit.
C'est un film glauque avec des mecs qui se touchent. Non, on veut pas de ça ici, ça va pas. Ok les amis, on rappelle donc, on en refait un petit blind test avant la fin, c'est promis.
C'est difficile. Hein.
Mais ouais, c'est très. Oh, bon non, mais toi t'es jamais sorti dans les boîtes, toi. T'avais pas le droit.
Il y a longtemps.
Ta maman voulait pas à l'époque.
Oh.
On accueille toujours Sylvie, hein, du lycée technique hôtelier, elle est restée là.
Ouais. Alors j'ai une autre question. Ne trouvez-vous pas que c'est discriminatoire de vacciner que les filles? On est quand même montré du doigt comme si c'était nous les contagieuses.
À propos du papillomavirus toujours,
oui.
C'est ça, hein.
C'est
ouais.
Vrai.
Bon, on en a parlé là. Ouais.
Oui, mais c'est vrai.
Mais ouais, toujours. Ça veut dire que ce sont elles qui.
Non, nous mais c'est pas discriminatoire. C'est-à-dire que c'est historiquement le papillomavirus a été rattaché au cancer du col de l'utérus, donc ça a commencé comme ça. Après, ça évolue et effectivement et donc. C'est pas discriminatoire et les femmes sont responsables de rien du tout. Faut pas penser qu'il y a de la discrimination tout le temps, sincèrement. Mmh. Mais bon, de toute façon, ça va arriver qu'on va vacciner les garçons et c'est les femmes qui régleront le problème du sida beaucoup mieux que les hommes et beaucoup mieux que les chercheurs et beaucoup mieux que tout ça.
Et ben voilà.
Uniquement en conseillant des modifications de comportement aux hommes.
Parce que c'est nous qui décidons, de toute façon.
Voilà.
On peut pas se laisser faire.
Ah, c'est fait, la base. Ah ben, on s'est fait avoir, hein. C'est foutu, hein. Ah
ouais, S'il veut pas mettre de préservatif, ben tu dis au revoir. Hein.
D'abord, le nombre,
c'est bon, hein.
Le nombre de mecs que
il
tu vois.
Il ira en acheter, il reviendra, t'inquiète.
Le nombre de mecs que tu vois dans la rue maintenant, c'est eux qui portent le bébé.
C'est bien.
Régulièrement, ils portent le bébé, les mecs. Et puis t'as les nanas derrière, leurs femmes qui téléphonent à leurs amants. C'est bien, hein. C'est la nouvelle société.
Et non, mais c'est pas à propos de ça. C'est que dans nos pays dits civilisés, je trouve ça normal que c'est les jeunes femmes, elles prennent en main leur sexualité et que ce soit elles qui prennent les décisions, qu'elles se sentent pas. Ouais, il va me guider si je mets pas le préservatif. Eh ben, tant pis, ça veut dire qu'ils t'aiment pas et qu'ils te respectent pas. Donc, c'est bon, passe au prochain.
Et donc, je voulais
vous parler du vaccin, c'est ouais. Vie, entre filles ou pas de ton âge
Non, c'est pas vaccin, vrai. On en parle pas du tout.
Pas trop, non.
Pas trop.
Et vous parlez jamais du sida, Sylvie?
Un peu plus que le.
Ah ouais, quand même.
Un peu plus.
Et donc, je vais demander à Stéphanie, les jeunes ont accès facilement à des vidéos pornographiques maintenant sur Internet.
Ça vous a dit. Moins jeunes aussi, apparemment.
Et voilà. Ça, les gens étaient sûrs, j'ai dit boum. Ça y est.
Mais c'est vrai que c'est moins grave pour les mecs comme Malher.
Oui, ils tremblent. Mais pour les jeunes, non. C'est inquiétant, c'est quoi c'est,
bah,
qu'est-ce que vous en pensez?
Je trouve ça dommage, parce que c'est ça leur vision de l'amour et des rapports entre un homme et une femme. Après, tous les goûts sont dans la nature, mais je veux dire, voilà, c'est y a tellement d'autres choses. Et je crois qu'il faut d'abord, je sais pas, développer des rapports d'amour. Après, plus tard, en sexualité, si chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là pour juger. Mais je crois que c'est dommage de démarrer dans sa vie de...
Et c'est la facilité à laquelle on tombe dessus, quoi.
Bah, ça, c'est les dangers d'Internet. Hein. Il y a du bon et il y a beaucoup de mauvais. Hein. Donc ça, c'est sûr.
C'est encore le rôle des parents qui peuvent aussi à la fois passer un message.
Mais les parents, ils ont démissionné depuis longtemps.
Ah, ils sont largués, compris. Ils sont. Mais ouais.
Ils parlent déjà pas de sexualité avec leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils leur interdisent? Les ordinateurs, les tablettes et tout, c'est devenu les nouveaux babysitters des enfants. C'est plus des nounous. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont à faire du moment qu'ils sont tranquilles, qu'on les laisse tranquilles, que les enfants sont dans leur chambre et qu'ils les embêtent pas, ils sont contents. Déjà, la base, pourquoi il y a plein de problèmes, pourquoi il y a plein de jeunes, même qui viennent ici poser des questions sur des rapports sexuels de base, des choses de santé de base, parce qu'ils n'ont pas ce dialogue-là avec leurs enfants, avec leurs parents. Les parents, ils parlent pas, ils veulent surtout pas parler de sexualité avec leurs enfants. C'est là où est le problème. Donc après, les enfants, ils vont chercher les réponses à leurs questions où ? Bah, sur Internet. Et sur Internet, il y a beaucoup de mauvais, il y a beaucoup de choses dangereuses, justement. Donc... C'est,
et entre autres,
c'est triste,
la pornographie, les violences, tout ce qui...
Mais oui, puis ça leur paraît normal, puisque c'est facilement accessible, et ils voient ça. Et peut-être que s'ils avaient eu un dialogue plus ouvert et la possibilité de poser des questions, justement, à leurs parents, toute simplicité, on croirait que les parents, mais leurs enfants, non, ils vont jamais grandir. Mais ils ont eu leur âge aussi, hein, c'est bon. Ils sont pareils. C'est pas tous des Immaculées Conceptions, ils ont eu une vie avant les parents. Hein. Je trouve ça, c'est assez dommage. Parce que c'est après, ça amène à des dérapages, il y a beaucoup plus de viols dans leur génération. Et c'est triste, parce que ça pourrait se régler simplement avec juste les parents qui prennent un peu plus le temps de voir et d'accompagner leurs enfants à travers l'adolescence jusqu'à ce qu'ils deviennent des jeunes adultes. Et c'est là où les enfants ont le plus besoin de leurs parents et du dialogue.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Et ben voilà, retour dans les studios de Radio Monaco, les amis, avec Alison du lycée technique hôtelier. Salut Alison.
Bonsoir.
Ouais, tu vas aller à Cannes bientôt aussi, toi, ça te fait rêver Non,
pas
ça te fait plus rêver.
Non,
hein.
On devrait présenter le documentaire sur la maison de vie au festival de Cannes.
Au festival, oui.
Ah bah allons-y. Ouais.
Et avec le
et on fait monter les marches pour Manuel.
Ben ouais, je vais appeler
Manuel et puis les affiliés.
Voilà.
Mais tout le monde.
Et là, vous acceptez
moi,
de les
monter. C'est une bonne idée.
Et là, vous acceptez de les monter.
Et là, vous venez avec eux.
Ah, moi,
vous
je vais chercher la Palme d'Or, c'est tout.
Alison,
il est magnifique ce documentaire. Mais... Je suis sûre qu'on rafle tout.
Mais l'an dernier, il y avait une petite opération avec le Festival de Cannes.
Ah oui, il y avait effectivement un donateur qui nous avait organisé une journée au Festival de Cannes.
Ok, Alison, t'as une question? On a le temps? Ouais, on a le temps. Alison.
Alors, à quel âge doit-on consulter pour la première fois un gynécologue?
Docteur, réveillez-vous.
Tu m'as te réveillé, oui ou non?
Non, mais je dors pas, je suis très, très intéressé par tout cela. À l'âge qu'on juge utile, en général, il faut quand même consulter un gynécologue avant d'avoir les premiers rapports sexuels. Tout dépend de la maturité de la fille.
Et de la mère aussi, comme tu disais.
Et de la mère, oui, voilà, c'est un plus gros problème. Mais parce qu'il faut discuter de contraception, il faut discuter de pratique à risque, il faut discuter, voilà. Si on consulte un gynécologue juste pour un dépistage au niveau des seins, au niveau des organes génitaux, ça n'a aucun intérêt dans l'adolescence. Par contre, ça a un seul intérêt avant les premières pratiques sexuelles. Pour pouvoir se
faire vacciner.
Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que 12-13 ans ou plutôt en fonction, c'est important.
Et est-ce que la pilule contraceptive peut être dangereuse?
La pilule contraceptive dangereuse.
Si on l'oublie, oui.
Faut pas l'oublier, ouais.
C'est
vrai qu'il y a eu des problèmes avec
les pilules de quatrième génération. Mais la pilule contraceptive, c'est quand même un médicament. Donc, comme d'habitude, si c'est bien prescrit, si c'est bien surveillé, si on respecte les contre-indications, si on respecte les facteurs de risque, c'est sûr que si on prend la pilule, si on a un surpoids, si on fume, c'est dangereux. Si on prend la pilule selon les recommandations et si c'est bien prescrit, c'est pas dangereux. C'est toujours pareil. Hein. Il faut tenir compte de tous les facteurs de risque associés, de la prise d'alcool, de la prise de tabac, d'autres choses qui potentialisent les effets secondaires. Quand on est jeune, et je le dis devant vous toutes, quand on est jeune, qu'on fume, pilule ou tabac, il faut choisir. Les deux, ça va pas ensemble. Et c'est là où on a des accidents, et notamment ce qu'on appelle les accidents vasculaires, c'est-à-dire des thromboses, des problèmes. Donc voilà, c'est très rare, bien sûr, c'est très rare. Mais quand ça arrive, c'est toujours un drame. Donc tabac ou pilule, il faut choisir. Une jeune femme qui fume, la pilule, c'est pas la meilleure des contraceptions.
Voilà, Alison, c'est tout.
À bon entendeur, salut.
Salut. Et on est là encore jusqu'à 19h.
Vous pouvez vous endormir
donc. Et dis donc.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Mais oui, les amis, un Jungle Fight très très spécial, comme d'habitude, bien sûr. La seule émission qui parle d'action, de prévention, de lutte contre le sida. Je vous rappelle que c'est la 51e ce soir. Présidée, et oui, animée par la Princesse Stéphanie, qu'on applaudit.
Ça ne rajeunit pas, ce malheur.
Oui, surtout moi. Hein.
51e, mon Dieu.
C'est absolument dingue. Mais on va continuer. Et Stéphanie, on dit souvent que vous êtes une princesse passionnée. Qu'est-ce qui pourrait vous passionner en 2016? Quelque chose de nouveau, non?
Non, je crois que j'ai...
Ça y est, vous avez donné. Hein.
Mais non, ça va.
Ah bah c'est bon là.
Pas s'éparpiller là. Et si tu attendais à ce que je dise toi, Malher, non.
Non, je suis pas une passion.
Bah oui, je suis déçu.
Bah ouais. Bah non, je suis pas déçu. Non. Mais tu sais bien.
Oui.
C'est
non, mais je donne toute mon énergie dans mon association, mes deux associations.
Oui.
Fight AIDS et Baby Népal et voilà. Et le reste du temps, c'est mes enfants.
Les enfants, la maison de vie. Mais quelque chose de nouveau.
Non, j'ai pas
la peine. Non, mais c'est pas la peine.
Il y a une dame là, qui m'interdit.
Tu veux pas la dame qui est là-bas?
Elle veut plus.
Christine Barca, qu'on te salue. Salut ma Christine.
Non, mais sinon, si vous arrivez à me faire des journées de 72 heures, il n'y a pas de problème.
Non, on va peut-être pas faire ça alors. Oh non.
Elle veut pas non plus.
Elle veut pas. Emmanuel Macron va bien y arriver.
Ah ouais. On accueille,
oui.
Dis-moi mon petit, c'est un personnage très important pour Faites, qui est à côté
pour
de toi.
Pour Faites, mais en principauté aussi, je crois.
Hein, il s'appelle.
C'est un grand honneur de pouvoir le recevoir.
Frédéric Platini, comment va ton frère, Frédéric?
Et il va bien.
Bah ouais.
Il est dans le business.
Donc c'est Monsieur Frédéric Platini, secrétaire général de la Croix-Rouge Monégasque.
Ouais. Qui est engagé auprès de Faites Monaco depuis longtemps. Hein.
Qui est une maison engagée avant même que je ne rentre dedans avec Fight Heads.
Ouais.
Donc moi je prends la suite. Mais maison de vie, ça c'est clair. La Croix-Rouge, elle regarde cette maison de vie avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, et elle continue à le faire. Ouais. Le deuxième point, c'est la prévention, parce qu'on fait de la prévention ensemble dans les écoles.
Avec la section infirmière de la Croix-Rouge.
Voilà.
Dominique Martet.
Prévention sur quoi?
Sur toute la thématique SIDA, ça veut dire.
D'accord.
Explication des comportements à risque, distribution de préservatifs. Donc la Croix-Rouge est engagée aux côtés de Fight Heads sur
cette thématique. Pas que le SIDA, les infections aussi, les
oui,
IST.
Oui, oui, surtout. Après, là, on a Fight Heads qui rentre en jeu et qui lui est plus spécialisé là-dessus, mais.
On est partenaire, donc la Croix-Rouge Monégasque, avec le lycée technique et hôtelier de Monaco, pour les déjeuners branchés, entre autres. Pour les classes de seconde. Et puis, la Croix-Rouge aussi, toujours avec la section infirmière, nous aide aussi pour le test in the city. Donc, c'est un partenariat qui date depuis longtemps. Et puis, Frédéric, avant, aussi était avec nous, puisque au titre de la direction de la coopération internationale...
À l'époque, j'étais avec Fight Heads, mais sur la branche un peu internationale de Fight Heads. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que, vu que la Croix-Rouge est locale et que son action est sociale, c'est d'être avec Fight Heads sur la partie sociale. Ce qu'on vient de développer un peu... Et...
C'est quoi les projets, là?
Pour la Croix-Rouge ou pour les projets ensemble?
Parce ensemble.
Que, alors les projets ensemble, on en a un beau en ce moment, c'est que on a une grosse vocation sociale, on dépense beaucoup, on a des assistantes sociales à la Croix-Rouge, et maintenant on essaie de soulager un peu Fight Heads sur les pathologies des affiliés. Mm-hmm. Je vois notamment des questions de frais dentaires, on se retrouve avec des sommes énormes à sortir, et là la Croix-Rouge elle vient en soutien. Je veux dire, c'est un peu la grand-mère des associations, la Croix-Rouge, elle a presque 70 ans maintenant, et puis elle a hérité de votre maman, de votre frère. Et donc, je dirais, d'un patrimoine. Et donc, elle aide et elle est contente d'aider Fight Heads. Et elle se sent bien avec Fight Heads, la Croix-Rouge, je dirais.
Puis la Croix-Rouge a été présente aussi pour la construction de la maison de vie. Initialement,
elle
était un partenaire important.
Mais elle est toujours là.
Et pour les 5 ans aussi.
Moi, je vois des courriers arriver sur la maison de vie. On y répond positivement.
C'est quoi, quel genre de courrier?
J'ai des courriers en disant qu'il y a de la petite rénovation à faire, qu'il y a des abris vélo, qu'il y a des. Donc on suit, au-delà de l'investissement initial, on a compris qu'on serait impliqué dans l'investissement futur.
Non, mais ça, c'est bien, ça.
Oui.
C'est pas important,
oui.
C'est une belle image.
Oui, oui, c'est important, ce partenariat-là, où nous nous sentons soutenus, entre autres par une institution comme la Croix-Rouge Monégasque. Mais c'est aussi une articulation au sein de Monaco où nous avons des partenaires comme ça qui font qu'on peut monter des projets et aboutir à des actions fortes au bénéfice des personnes vivant avec le VIH ou ici à Monaco ou ailleurs aussi.
Et c'est important aussi, comme je dis toujours, qu'on est un tout petit pays. Et ben voilà, regarde, on s'entraide tous pour la lutte contre le sida et on fait beaucoup plus tous ensemble. Mmh. Que des gros pays, des grosses machines de guerre. Nous, on est tout petits avec nos moyens. Et ben, on fait beaucoup plus pour la lutte contre le sida et le soutien aux personnes vivant avec le VIH que les autres. Donc, à bon entendeur, salut.
Et ben voilà.
Je suis très fier de mon pays. De tout le monde qui travaille ici, voilà.
La section humanitaire aussi intervient au niveau du sida dans certains pays. Sur certains projets aussi.
Sur l'Afrique de l'Ouest, mais la Croix-Rouge c'est surtout local, honnêtement. Si vous pensez Croix-Rouge, vous voyez le secourisme, vous voyez la crèche garderie, vous voyez donc on est surtout monégasque, et puis après on est à l'international. En international, je dirais on est plus sur les catastrophes, les crises en réponse au CICR, à la FICR, et puis après sur des actions ponctuelles. Là on a un gros projet.
Ça il sait pas ce que c'est.
La fédération, la fédération c'est tout ce qui est catastrophe naturelle.
Oui.
Ok, tremblement de terre c'est la fédération qui lance. La situation de guerre c'est le CICR. Donc, situation de guerre, on reçoit donc des appels de nos maisons mères, parce qu'on est affilié quand même à une maison mère à Genève.
À Genève,
qui nous dit, il y a quelque chose au Salvador, et nous on répond.
Et dis-moi, à propos de Genève, Franck, tu voulais parler en Suisse?
Oui,
alors. C'est une expérience qui a eu lieu.
C'est une information nouvelle, et c'est pas une expérience, c'est une transplantation chirurgicale entre deux malades atteints du VIH, entre deux personnes qui devaient avoir une greffe de foie. Une personne a pu donner son foie après son décès à une autre personne qui était également atteinte du virus du VIH, et ça a marché. C'est autorisé en Suisse depuis 2007, et c'est la première fois seulement qu'ils font l'essai. Apparemment, il n'y a pas eu de gros problèmes de contrôle sérologique. Ça a plutôt bien marché. Aux États-Unis, ils ont fait une expérience également qui a fonctionné. Donc, ça ouvre peut-être quelques portes sur la greffe.
Réaction, Bruno?
Ah non, je suis très favorable. Ça prouve qu'il faut changer toute cette frilosité. C'est-à-dire que ça, c'est possible grâce à la puissance des traitements actuels et qui font que à partir du moment où on contrôle la maladie, grâce au traitement, ces patients qui sont porteurs du virus doivent être considérés comme des patients comme les autres et doivent avoir accès. Alors ça s'est beaucoup fait chez des donneurs négatifs pour le virus, bien sûr, mais c'est la première fois que deux donneurs, et pourquoi, vu la rareté des greffons, c'est quelque chose qu'il faut étudier et on ne doit pas refuser grâce à la puissance des traitements actuels.
C'est pareil pour le sang, on peut se poser la question,
exactement.
Quels sont les traitements possibles pour avoir une manière de pouvoir le transplanter de séropositif à séropositif ou à autre?
Les dents du sang.
Oui, dents du sang, ouais.
Là, c'est peut-être, c'est même pas sûr que ça soit plus compliqué parce que le don du sang, un séropositif qui est contrôlé par le traitement n'a pas de virus dans son sang. Donc, en théorie, on devrait pouvoir prélever son sang et le transmettre. Là, je pense quand même également à une personne séropositive contrôlée. Et scientifiquement, il n'y a rien qui s'oppose à ça. C'est plus un problème, je dirais, intellectuel qui fait que au jour d'aujourd'hui, ces gens sont éliminés du don d'organes. Mais encore une fois, ce sont des pistes à creuser parce que grâce à la puissance des traitements, il n'y a pas de risque de transfuser, de prélever quelqu'un qui est contrôlé, de lui prélever son sang et de le transmettre à quelqu'un d'autre.
Bon, cher Frédéric...
C'est pas gagné.
Non. Un petit mot avant...
On va le garder pour le blind test.
On le garde.
Ah oui.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Eh oui, en direct des studios de Radio Monaco. Salut les amis, tout va bien. Dernier quart d'heure, tout de suite. On est avec Michael du lycée technique hôtelier. Bon, salut Michael. Va. Il est plus là, celui qui venait, tu te rappelles, il y en avait un qui venait souvent.
Il
passait ses soirées dans les boîtes en Italie. Il emmenait une fille sur la plage.
Il a tout quitté. Il a grandi.
Ouais. Il a grandi. Ouais. J'espère qu'il met toujours des capotes. Hein.
Ouais. Oui, il nous avait raconté que.
À chaque fois, il met la capote.
En fait, il dit qu'il avait vu la tête de Zaza et il était parti chercher les préservatifs.
Oui, il a vu la tête de Zaza, il a eu peur.
Tata Zaza.
Oh, Zaza.
Il a pensé à Zaza, il est vite parti chercher les préservatifs.
Michael, qu'est-ce que tu veux savoir?
Alors, je suis là pour vous rappeler que le 25 juin aura lieu au Larvoto, notre belle plage ensoleillée, ça tombe à samedi, Test in the City.
Très bien, Mick.
Pour ceux qui connaissent pas le principe, il y aura des installations qui permettront à ceux qui le souhaitent de passer un dépistage gratuit et anonymement.
Voilà.
Je suis là vraiment pour vous inciter à venir nous voir parce que on est là pour enlever le doute, c'est aussi envisager une vie amoureuse plus sereinement.
C'est rigolo, oui.
Surtout, ouais, c'est vrai. Je suis là aussi pour vous rappeler que c'est pas un entrevue médicale, mais vraiment un moment convivial. On est là pour vous rassurer, enlever le doute, répondre à vos questions. Il y aura des boissons, il y aura de...
Non, dis pas ça.
Ça, c'est les anges gardiens qui amènent les boissons.
Oui.
Enfin, enlever le doute, on a toujours un petit doute, même si on n'a pas fait de bêtises. Hein. Je vous rassure tout de suite. Frédéric, il confirme.
Mais il va venir.
Pourquoi ?
Il va venir passer le test.
Il va pas venir. Il a peur. Hein. Ah, il y a toujours un petit doute, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Tu le laisses finir, s'il te plaît.
Bon, rappel, c'est quand ?
C'est samedi 25 juin, au Larvoto.
Au Larvoto.
Voilà. Il fera beau, j'ai regardé la météo.
Il a tout, avant de partir en vacances.
Il est bien, il nous fait une belle promo quand même.
Vachement bien. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre?
J'ai appris que le 17 mai dernier a eu lieu la journée internationale de la lutte contre l'homophobie.
Oui.
AIDS a organisé une campagne,
visuelle.
Le principe proposé sur les pharmacies propose une boîte de médicaments dans lesquels il y a des patchs qu'on proposait aux homophobes et qui les rendraient moins bêtes.
Mmh. Voilà.
Et plus large d'esprit. Je voulais savoir si l'humour a sûrement des vertus contre l'homophobie. Est-ce que dans la lutte contre le VIH, le sida, la discrimination sida égale l'homosexuel n'est-elle pas incurable?
L'humour. Ouais. Lui, il me fait rire en attendant.
L'humour, ça marche toujours, mais il y en a de moins en moins qui en ont. Donc,
ça, c'est
ou qui le comprennent, c'est ça. Les gens sont tellement bloqués dans leurs idées, dans leur vie, dans leur train-train, dans leur narcissisme que ils sont même pas capables d'avoir une pointe d'humour et de prendre ça avec humour, malheureusement. Mais bon, si ce patch il est inventé un jour contre la bêtise, ça serait la plus belle chose au monde, ça.
Et là, c'était une bonne idée.
À Monaco, on va en vendre beaucoup. Hein.
C'était une bonne idée de la part de Ed de faire cette campagne. Le médicament, comment il s'appelle déjà? Je me souviens plus. Homophobiol. Comme quoi, là, c'est encore très récurrent. J'ai lu aujourd'hui que pour la réunion au niveau des Nations Unies où vous allez à Altesse en juin,
début juin,
il y a 51 États musulmans qui ont demandé aux Nations Unies de retirer une vingtaine d'organisations de défense des droits LGBT.
Donc, le droit LGBT.
LGBT, c'est lesbien, gay, bi et trans. C'est-à-dire que ce sont des associations qui défendent les droits des personnes lesbiennes, gays, bi ou trans. Mmh. Et donc, il y a des pays musulmans, membres des Nations Unies, qui ont demandé à ce qu'il y ait une vingtaine de ces organismes-là retirés lors des rencontres auxquelles vous allez participer à Altesse.
Ouais.
Alors qu'on sait que les personnes LGBT qui vivent mal leur sexualité sont d'autant plus à risque.
Ouais.
Par rapport au risque de contamination.
Ouais, tu sais, là, en ce moment, les pays musulmans, je vais pas les contredire. Hein.
Mais il faut faire attention que ces messages soient pas contre-productifs, parce que si on pense que le sida, c'est les homosexuels, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein.
Voilà. C'était la question de Michael.
Voilà. Et le problème, c'est, en tout cas en France, c'est un tiers, un tiers d'homosexuels, un tiers d'hétérosexuels et un tiers de migrants. Donc, c'est vrai que les homos sont surreprésentés parce que la contamination, c'est 200 fois plus fréquent et que le nombre est moins important par rapport aux hétéros. Mmh. Mais le sida, c'est le problème des homos, c'est le problème des hétéros. Et c'est bien de faire des campagnes comme ça, mais peut-être que les gens pensent à ce moment-là, en faisant des campagnes comme ça, que le sida, c'est les homos, c'est les transgenres, c'est les lesbiennes, et que le reste, ils n'ont rien à faire, et qu'eux, ils peuvent... voilà. Le sida, c'est le problème de tout le monde.
Exact, ouais. Merci, mon cher Bruno. Je rappelle le concert pour soutirer et pour avoir des fonds.
Soutirer
des fonds.
Racketter.
C'est un peu ça, non? Star 80, c'est à la salle des étoiles de Monte Carlo. C'est le 16 juillet, c'est ça?
Samedi 16 juillet.
Mais dis-moi, est-ce que c'est pas... C'est
les
pas...
places sont avant.
Il y a un braquage à l'entrée.
Et un braquage, ouais. Boum.
Avec un dress code.
Il y a Tombola, non? Ah oui, le dress code, il faut venir habiller années 80 quand même.
Ah ouais, alors là, il travaille. Ah bah, tu peux y aller. Toi, t'es déjà. Oh, non, ça, c'est 1880. OK, avec François Feldman, Émilie Mage, Sabrina, Patrick Hernandez, Cookie Diggler, on en a parlé. Bah, justement, on va en profiter pour faire un petit blind test.
Jeanne Mas.
Bah ouais, facile, c'est en 84, hein. avec la Lou Punkett à l'époque. Hein. Elle faisait
première fois.
Un jour, je me
suis dit,
elle va se faire mal, elle va se mettre
elle faisait de la
tennis, c'est le mot.
Ouais, produit par Romano. Voilà. Elle arrive avec Stéphanie qui fait tous les gestes de Jeanne à l'époque. C'est incroyable. C'est bien. Ok les amis, on continue. Attention, écoutez bien, c'est en 86 l'été.
Una storia importante.
Rosa Ramazzotti.
Ah ben c'est...
Pour nos amis italiens.
Tu les connais, nos amis italiens. Frédéric, il a trouvé tout de suite. Una storia importante. C'était l'été 86. T'étais où, Frédéric, en 86? Tu te souviens, non?
Ouais, j'avais 13 ans, alors je sais pas, je devais être en colonie de vacances.
Non, faut parler dans le micro, vas-y.
Je devais être en colonie de vacances.
T'étais en colonie de vacances? Ah, tu faisais déjà des folies, voilà.
Bah, première soirée de Fighters Monaco et Rose Ramazzotti.
Ouais. Oui.
Ah, c'est vrai.
Eh ouais,
mais
faut 86.
Savoir. Oui, 86 quand même. Eh ouais.
Il fait tige.
Là, on revient en 1980. On peut appeler ça le premier rap français.
5 heures du match, j'ai des frissons. Je claque des dents et
chagrin,
je
le chagrin d'amour.
Seul sur le lit dans mes draps bleus
français.
De Tartaillon.
Mais ouais, Tartaillon, qui a trouvé. Chagrin d'amour. T'as eu des chagrins d'amour.
C'est mon époque. C'est mon époque.
Et t'as eu un gros chagrin d'amour à cette époque-là, c'est ça?
On a toujours des chagrins d'amour, Malheur.
Qui s'en est pas?
Malheur, il n'en a plus.
Ouais, il y avait Grégory et Valie. Voilà, ces gros cartons de l'été 1980. Et je trouve que ça a bien vieilli. Hein? Voilà. On fonce tout de suite l'année 1989. Les amis, attention, grosse balade qui tue de l'été. Et là, Frédéric, tu vas reconnaître tout de suite.
Nos jeux dans les vagues.
Rock voisine. Rock voisine, oh là là.
Qui est venu pour Fighters Monaco.
Et quand ça? Quand ça, quand est-ce qu'il est venu?
Il y a 4 ans, 5 ans. 4,
5 ans.
Hein, beaucoup plus. C'était au début. C'était dans les premières années de nos galas.
C'était le premier ou le deuxième?
Après Yannick Noah et avant Bruel ou un truc comme ça.
Ah ouais, c'est ça, ouais.
On a eu deux fois, non?
Ouais. Mais j'irai troisième, quatrième.
C'était avant Maï.
Ouais. Ah ouais, largement. Ouais.
Largement, longtemps avant Maï.
Ouais. C'est au début.
On va pas être d'accord.
Mais on l'a eu deux fois.
Maï. Avant Maï, on avait eu déjà Star 80, oui. Noah.
Oui, donc je pense que
c'est quand même le slow qui tue là. Il y en a plus, ça existe plus en 2016, ouais, hein, des balades comme ça, non? Voilà, Stéphanie qui va enregistrer une nouvelle version d'Hélène. Ouais. On fonce tout de suite l'année 2013. Bon, ça c'est facile. Hein.
Avicii.
Ouais, on voit les vieux, ils sont complètement largués là. Complètement largués, Avicii, Wake Me Up. Producteur.
Qui sont encore en discothèque.
Et DJ suédois. Ah ouais, gros carton, les amis, c'est bien. Hein. Donc là, on va s'amuser quand même, le fameux 16 juillet. Hein.
Oui, mais là, c'est pas la bonne année, là.
Pour récolter.
Non,
nous, on a pris un peu toutes les
époques. Ah, mais tu comprends
pas choses aussi. Ah, mais j'aime bien que tout compliqué, moi. Ok, et là, nous allons terminer avec Mélanie. Salut Mélanie, qu'est-ce que tu veux savoir?
Salut, alors ma première question est, quels sont les risques de l'utilisation de la pilule dans les veaux?
Pardon, la quoi? La femme à qui? Là?
Le Norlevo.
Norlevo.
La pilule du lendemain.
Ah, la pilule du lendemain. Voilà. D'accord.
Il y a pas de risque. Là encore, il y a pas de risque particulier. Si c'est bien indiqué, c'est bien prescrit. Et le risque, il est plus, je pense, dans le cas du non-accompagnement sur un plan psychologique que sur un plan médical. Hein. Il n'y a pas de risque particulier.
Le problème, c'est que c'est un peu abusé maintenant. Voilà. Les jeunes filles, plutôt que de se protéger, elles vont le lendemain à la pharmacie prendre la pilule du lendemain. Je veux dire, c'est pas...
Et on leur donne tout de suite, il n'y a pas besoin de...
Oui, logiquement, si elles sont majeures, on leur donne de suite, mais bon, après, voilà, quoi. Mais la solution de facilité, il faut prendre ses responsabilités, quoi. Si on met un préservatif, déjà, on évite aussi la grossesse, de prendre la pilule aussi. C'est un peu... Moi, je trouve ça un peu trop facile, et à long terme, il y a des jeunes filles qui le prennent pratiquement tous les mois, parce qu'elles ont un accident de parcours. Un risque de grossesse tous les mois, prendre ça tous les mois à l'âge où on est, enfin, une jeune femme ou une en fin d'adolescence ou en début de vie de jeune femme adulte. Je suis sûre qu'on n'a pas le recul peut-être pour le voir, mais bon, des filles qui en prennent 10-12 par an de ces pilules, ça doit pas être bon non plus. Hein.
Non, parce que c'est surdosé en hormones, c'est très dosé en hormones, donc à long terme, ça pose des problèmes quand même. Mais toutes les jeunes femmes qui prennent la Norlevo ou équivalent devraient bénéficier également d'un test de dépistage, puisque ça veut dire qu'en théorie, elles ont eu une conduite à risque. Donc faut pas penser qu'à la grossesse, faut penser à tout le reste.
Je suis sûre que ça doit avoir un effet, peut-être au long terme, on sait pas, après le jour où elles décident d'avoir un enfant, de plus en avoir, quoi. De plus pouvoir en avoir, on n'a pas le recul... assez pour voir sur ces pilules, mais je suis sûr que ça doit avoir une incidence. Ouais.
Hein. Ces effets des œstrogènes à forte dose, c'est jamais bon chez des jeunes femmes d'avoir des œstrogènes à forte dose en continu. Ça doit être épisodique, c'est comme les tests de dépistage. Il ne faut pas en faire un tous les mois en se disant, Dieu merci, il est négatif. Il y a une responsabilité à avoir. Qu'on ait un accident une fois, on peut le comprendre. Qu'on fasse ça tous les mois, ça devient un peu compliqué quand même.
C'est la réflexion sur les changements de comportement.
Oui.
Voilà. Mélanie, est-ce que tu as une autre question ?
Oui. Alors ma deuxième question est, quels sont les IST qui peuvent vous rendre stérile ?
Infection sexuellement transmissible.
Celle qui est la plus classique, c'est les chlamydiés.
Si elles sont mal soignées,
qui non soignées ou pas soignées, parce que ça c'est le plus souvent asymptomatique, et ça donne un retrécissement au niveau des trompes, et ce qui fait qu'on a une stérilité, c'est-à-dire que les spermatozoïdes ne peuvent plus arriver jusqu'à l'ovaire, ne peuvent plus féconder les ovules. C'est essentiellement cette maladie-là, les chlamydiés, qui peut rendre stérile. Après le reste, effectivement, une femme qui a des salpingites ou des infections génitales à répétition hors chlamydiés peut également, chaque fois qu'on a une inflammation du petit bassin, par infection génitale, c'est jamais bon pour la procréation ultérieure. Donc en clair, toutes les infections génitales à répétition peuvent malheureusement, au bout d'un certain temps, entraîner une stérilité. C'est pour ça qu'encore une fois, il n'y a pas que le VIH, tout ce qui est sexuellement transmissible pose problème. Et les chlamydiens en priorité.
Et pour les hommes ?
Pour les hommes, à ma connaissance, il n'y a pas de problème particulier. Voilà, c'est pas le même mécanisme.
Les hommes échappent encore à tout.
Et oui.
Il peut y avoir d'autres complications.
Et oui. Voilà. J'espère que vous avez pris des choses en deux pendant les 2 heures, les amis. Surtout, protégez-vous, bien sûr. Merci, Stéphanie. Merci,
madame.
Merci à toute l'équipe de Fighted. Nous, on se retrouve dans un mois, le 16 juin, à la Maison de Vie. Je vous rappelle, ce sera.
Entre c'est platinier avec Jean. Entre, et son abri vélo.
Entre 16h et 18h. 16h, 18h à Carpentras. Oui. C'est ça, hein?
C'est ça.
C'est ça. Hello, c'est ça. Coucou. Bonjour. Au revoir, Stéphanie.
Au revoir,
Alain. Au revoir. C'est bon, les amis. On se retrouve dans un mois. Allez, tout de suite, il est 19h sur Radio Monaco. Les toutes dernières infos avec Camille Chapuis. Bonsoir Camille.
Bonsoir Malher, bonsoir à tous. L'état du monde vu de...